Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Droite Cité 95.5 FM. Nous sommes ensemble pour la troisième partie de cette émission Voyage à travers les étoiles que vous pouvez retrouver donc depuis lundi. Nous avions parlé donc le jour précédent de la découverte du système solaire, des galaxies et la conquête de l'espace. Aujourd'hui, nous allons parler de la découverte des nouvelles planètes et de la station internationale. Je voudrais tout d'abord présenter les personnes présentes aujourd'hui, donc monsieur Roger Ferlet, qui est président de la Société astronomique de France. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Philippe Zarca de l'Observatoire de Paris, bonjour.
Bonjour.
Et puis monsieur Philippe Bordier, qui est membre de l'association Planète Mars.
Bonjour.
Bonjour. Et monsieur Bernard Nomblot, donc directeur du Parc aux Étoiles, bonjour.
Bonjour.
Et je vous rappelle que cette année, cette émission présente une particularité, puisque nous ne sommes pas dans les studios de Radio Droite Cité, mais dans la salle de conférence du Parc aux Étoiles à Triel-sur-Seine. Je remercie d'ailleurs Bernard Nomblot de nous accueillir. Alors, nous allons commencer cette émission donc avec la découverte des nouvelles planètes. Première chose, c'est quels moyens a-t-on utilisé pour découvrir des nouvelles planètes en dehors du système solaire ? Monsieur Ferlet ?
Je voudrais commencer par dire qu'on vit une époque formidable parce que c'est une question qui est aussi vieille que l'humanité. Mmh. Et il faut rajouter aussi qu'il y a 4 siècles, il y a encore un monsieur qui a été brûlé pour en partie avoir dit qu'il existait d'autres mondes habités dans l'univers. Monsieur Bruno, Giordano Bruno, en 1600, brûlé. Ben bref, moins de 4 siècles après, on sait maintenant qu'il existe des planètes en dehors du système solaire. Alors comment on a fait pour les trouver ? Il y a plusieurs méthodes possibles, mais celle qui a marché jusqu'à maintenant le mieux, c'est ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. C'est-à-dire que quand on regarde une étoile et puis qu'autour de cette étoile tourne une planète, en réalité, les deux tournent autour d'un centre de gravité commun. Ce qui fait que quand on mesure la position de l'étoile, c'est une autre méthode, ou la vitesse radiale de l'étoile sur le spectre, eh bien, on voit une petite variation périodique, puisque l'étoile tourne autour d'un centre de gravité commun. Et donc, cette méthode-là, elle a permis de découvrir un certain nombre de planètes extrasolaires, comme on les appelle. Je crois que maintenant, on en doit être à au moins 35, sûr. Alors, la grande caractéristique, c'est ce qui a été complètement surprenant, c'est que la majorité de ces planètes extrasolaires sont très proches de leur étoile, ce qui est contraire à ce qu'on observe dans le système solaire. Mmh. Donc ça a été un grand problème, c'est toujours un grand problème. Alors il faut tout de suite ajouter que la méthode est biaisée, comme on dit, c'est-à-dire que la méthode est... Avec cette méthode-là, c'est beaucoup plus facile de détecter des grosses planètes que des petites. D'ailleurs, la méthode n'est pas encore assez précise pour détecter des planètes du genre Terre. Et deuxièmement, elle est biaisée aussi. Ça fait qu'elle a été mise au point et sa précision est suffisante que depuis environ 5 ans, puisque la première a été détectée en 1995, je crois. D'ailleurs, en France, à l'Observatoire de Haute-Provence, par une équipe suisse. Et vous savez que Jupiter met à peu près 11 ans pour faire le tour du Soleil. Donc si vous observez que depuis 5 ans, vous n'avez pas beaucoup de chances de détecter une périodicité due à des planètes du genre Jupiter. Donc ça va venir de plus en plus.
En fait, on peut ajouter que juste avant la découverte de ces planètes par les méthodes des vitesses radiales, il y a déjà eu d'autres planètes qui ont été découvertes par une méthode un petit peu analogue. En fait, il s'agissait cette fois-ci de planètes autour d'un pulsar. Un pulsar, c'est un résidu d'étoile, c'est une étoile morte, en fait, et ce qui reste est en rotation rapide et émet des ondes radio qu'on reçoit à chaque tour, et un tour peut se faire de l'ordre d'une seconde ou moins. Et en fait, quand on reçoit ces espèces de tops radio naturels, si des planètes se trouvent autour du pulsar, eh bien c'est pareil, la distance du pulsar par rapport à nous va très légèrement changer avec le mouvement orbital de la planète, et donc les pulsations qu'on reçoit vont être un tout petit peu plus distante ou un tout petit peu plus rapprochée en fonction d'où on se trouve sur cette orbite. Et on a découvert comme ça en 92, un astronome polonais qui s'appelait Volkjan et qu'on a appelé le nouveau Copernic, a découvert comme ça une, puis deux, puis trois planètes autour d'un pulsar. Alors c'était à la fois très surprenant et puis un peu décevant, très surprenant parce qu'on ne s'attendait absolument pas à trouver des planètes autour d'un pulsar, dans la mesure où un pulsar c'est une étoile morte, comme j'ai dit, et donc c'est une étoile qui a précédemment expulsé toutes ses couches externes, qui a explosé en fait, ça a fait une supernova avant. Et donc, on ne s'attendait pas à trouver quoi que ce soit ressemblant à une planète dans les environs immédiats, puisque tout doit avoir été soufflé dans l'explosion. Donc, c'était un problème de physique très intéressant. Il fallait expliquer que ces planètes se reforment. Alors, un petit peu décevant, parce que quelle que soit la méthode qu'on utilise pour expliquer la reformation de ces planètes, elles sont d'une part relativement récentes et d'autre part dans un environnement absolument abominable, plein d'énergie, de rayonnement et de tout ce qu'on veut, et donc il est évidemment hors de question d'y trouver quoi que ce soit qui ressemble à de la vie. Donc ce sont des planètes stériles.
Mais justement, vous parlez de vie, est-ce qu'on peut se dire quand même que puisque on va continuer à découvrir des planètes extrasolaires, est-ce qu'il se pourrait qu'un jour on découvre une planète où il pourrait y avoir de la vie ?
Non, alors une grosse partie des travaux en cours pour les gens qui préparent le projet Darwin, c'est justement d'étudier ce genre de questions et de faire la part des choses, de savoir quels sont tous les processus possibles parasites, en fait, pour produire de l'oxygène qui ne seraient pas des processus biologiques. Et donc, ce que les gens veulent essayer de faire, c'est soit se convaincre qu'effectivement la présence d'ozone sera bien une présence d'oxygène biologique, soit qu'effectivement il y a des artefacts possibles, et à ce moment-là, essayer de quantifier quelle est la probabilité qu'on tombe bien. Mais disons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la meilleure méthode envisagée. Mmh. C'est pas encore fait, on changera peut-être d'avis, mais c'est ce qui est en cours.
Monsieur Ferlet ?
Si je peux me permettre de revenir un petit peu sur les méthodes de détection des planètes extrasolaires, il y a une méthode qui s'appelle la méthode du transit. C'est-à-dire qu'une planète qui passe devant son étoile, et si on a la chance d'être dans le plan de l'orbite, à ce moment-là, quand la planète passe devant l'étoile, entre nous et l'étoile, il y a une légère diminution de la luminosité de l'étoile, et c'est ce qu'on appelle un transit. Je voulais juste revenir là-dessus, parce que d'abord, c'est une méthode qui a marché depuis... À la fin de 99, on a annoncé la première détection d'une planète par cette méthode-là. Et deuxièmement, c'est une méthode qui est utilisable par des astronomes amateurs, à condition, évidemment, pas d'avoir un gros matériel, mais de savoir très bien travailler. Mais un astronome amateur avec un petit instrument, enfin pas très gros, peut, à la limite, découvrir une planète extrasolaire par cette méthode de transit.
Très bien. Monsieur Nomblot, vous vouliez rajouter quelque chose ?
C'est juste sur, effectivement, l'astronomie d'amateur qui, de nos jours, met dans les mains de gens qui ont envie de faire un travail utile à la communauté scientifique absolument tous les outils nécessaires pour le faire, des outils dont on ne rêvait pas dans les observatoires professionnels il y a encore 25 ou 30 ans. Et quelqu'un qui a vraiment envie de faire œuvre utile peut, si le cœur lui en dit, vraiment faire un travail intéressant aussi bien dans la recherche d'étoiles variables que la recherche de supernova ou que sais-je. Ou donc, maintenant vous nous annoncez les planètes extrasolaires. Personnellement, je suis très loin de ça. Moi, je suis un amateur au sens dépassé du terme. Je me contente de regarder les choses et tout au plus de les crayonner.
Très bien. On va marquer une pause musicale et puis on se retrouve juste après pour le sujet, parler un peu de la Station internationale. De retour, toujours ici, à la salle de conférence du Parc aux étoiles à Triel-sur-Seine pour cette émission Voyage à travers les étoiles. On va parler donc de la Station internationale et avant de poser des questions, on va écouter l'interview de M. Gilles Debat qui travaille à l'aérospatiale des Mureaux pour nous parler un petit peu plus en détail de la Station internationale.
La Station internationale, c'est quoi ?
Alors la Station internationale, c'est un énorme complexe qui est construit par les Américains et les Russes en particulier et auquel évidemment l'Europe contribue également, qui est destiné à faire des expériences en microgravité, c'est-à-dire en absence de gravité ou presque, et qui va tourner autour de la Terre pendant une dizaine d'années environ.
On a déjà une station qui s'appelle la station Mir. Pourquoi alors faire la station internationale ?
Alors d'abord parce que la station Mir est une station qui maintenant est en fin de vie, même si les Russes essayent de la maintenir encore en opération. Et puis la station Mir a des caractéristiques en matière d'utilisation qui ne sont pas suffisantes pour mener à bien toutes les expériences que les Américains, les Russes et tous les partenaires internationaux veulent mener à bord de la station. Il faut une installation plus évoluée, plus sophistiquée.
Quels sont les pays participants à la station internationale ?
Alors l'ensemble des pays, la liste serait assez longue, mais les principaux, comme je disais, ce sont donc les États-Unis, la Russie, mais également l'Europe. En général, et à travers l'Europe évidemment, la France, l'Allemagne, l'Italie, ainsi que l'ensemble des membres de l'Agence spatiale européenne. Et puis il y a aussi à bord de la station internationale une participation importante du Japon. Le Canada apporte sa contribution également.
Combien de personnes maximum y aura-t-il dans la station internationale ?
Alors l'équipage permanent qui fera des expériences sur plusieurs semaines, plusieurs mois, sera composé d'environ 6-7 personnes lorsque la station sera vraiment complètement opérationnelle. En fait, momentanément, il pourrait y avoir plus d'astronautes à bord, en particulier lorsque des véhicules comme la navette américaine ou les vaisseaux Soyouz russes viendront desservir la station.
Quels seront justement les véhicules qui desserviront la station ?
Alors, les grands véhicules que l'on connaît, bien entendu, aujourd'hui, le plus grand véhicule, c'est la navette américaine, qui emporte jusqu'à 7 astronautes en tout à la station. Le deuxième véhicule le plus utilisé pour emmener des astronautes, ce seront donc les vaisseaux Soyouz, qui fonctionnent depuis fort longtemps et qui fonctionnent très bien, et qui emportent 3 personnes. Et puis, au-delà de ça, il y aura un certain nombre de véhicules, disons, de transport logistique. Le premier étant historiquement le Progress, qui est un véhicule russe aussi, automatique. Le deuxième, et qui est même le deuxième en termes de taille à l'échelle des vaisseaux de la station internationale, c'est l'ATV, le véhicule de transfert automatique, qui est développé par les Européens et en particulier par Aérospatial Matra Lanceur.
La date de mise en service de la station internationale, c'est pour quand ?
Bien, la date de mise en service, c'est un petit peu difficile de donner une date comme ça, puisque la station internationale, elle existe déjà. Il y a déjà 2 modules en l'air. Et en juillet, le module de service qui attend à Baïkonour sera lancé. Et à partir de ce moment-là, la station commencera à être, d'une certaine manière, opérationnelle. Elle sera pleinement opérationnelle avec l'ensemble de ses moyens et l'ensemble de son équipage, en gros, maintenant, fin 2003.
Elle sera habitée donc à partir de 2003 seulement ?
Non, elle sera habitée plus tôt. Elle sera habitée environ un an plus tôt, de façon permanente.
Pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser à nos auditeurs ?
De regarder de temps en temps le ciel juste au-dessus d'eux, et ils verront qu'il y a un point lumineux qui normalement va grossir dans les années qui viennent. Et ils pourront imaginer, et voir peut-être même, s'ils ont vraiment de très bons yeux, les 6 ou 7 personnes qui seront à l'intérieur et qui essaieront de faire avancer la science tout en regardant la Terre, qui est toujours aussi belle vue du ciel.
Voilà, donc interview de Gilles Debat de l'aérospatiale des Mureaux. Est-ce qu'il y en a qui voulaient réagir justement par rapport à ce que M. Debat a dit ?
D'après ce qu'il a dit, la station internationale, ça va servir pour travailler en microgravité. Okay. Moi, je suis astronome et par exemple, en ce moment, je travaille sur des données qui arrivent d'un nouveau satellite en orbite. Je pense que la quantité d'observations, la quantité de découvertes possibles grâce aux satellites artificiels mis en orbite autour de la Terre ou placés, par exemple, comme SOHO ou Point de Lagrange, la station internationale n'égalera jamais tous ces satellites-là.
Tout en coûtant malheureusement beaucoup plus cher.
Malheureusement.
Donc ce qu'on aimerait bien en fait, en tant qu'astronome, j'ai l'impression, c'est que la part soit clairement faite en fait entre les budgets qui vont à la recherche, à l'astronomie, à l'espace, mais dans ce cadre-là, et puis ceux qui vont à la station spatiale et à l'industrie. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame, parce que sinon effectivement la station spatiale risque de laisser pas mal de projets spatiaux exsangues sur le carreau.
J'ajouterais simplement qu'effectivement, cette station, comme vient de le dire M. Debat, va être opérationnelle dans 2-3 ans. Je pense qu'il est peut-être encore temps de se mettre autour de la table et que toutes les personnes intéressées, il y en a, mettent sur pied ce programme d'utilisation. Je pense qu'il y a certainement des idées. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur son utilité, mais il y a déjà eu du travail de fait dans la station Mir en particulier. Est-ce qu'il ne faut pas se mettre autour de la table avec tous les intéressés, les astronomes, on vient d'en parler, les cosmonautes, les astronautes, les industriels, etc., etc., pour arriver à construire un programme d'utilisation de cette station ? Je sais certainement le défi auquel on est confronté aujourd'hui.
Il y a évidemment des initiatives de ce genre. Il y a eu déjà, je crois que c'était en 95-96, un premier symposium en fait sur l'utilisation de la station spatiale internationale, qui était sous les auspices de l'ESA. Et donc il y a eu plein de présentations à ce symposium sur les utilisations possibles, notamment par des astronomes. Bon, il faut savoir que c'est assez difficile parce que la station spatiale contiendra des hommes à bord. Et les hommes, ça bouge, ça éternue, ça produit des déchets. Donc il y aura un nuage de... Même si on essaie de les contenir, il y aura toujours des déchets en orbite. Ça veut dire qu'on a calculé que les surfaces de télescopes qu'on mettrait par exemple là seraient vite dans un triste état, etc. Et il y a un deuxième symposium là, c'est qui je crois cette année va avoir le jour, toujours sur l'utilisation. Donc il y a plein d'initiatives et plein de discussions autour de ça. Mais c'est compliqué, c'est cher et c'est pas très très adapté à l'astronomie, j'ai l'impression. Mmh.
Alors une question que je voulais poser justement, c'est que la station internationale n'aurait-elle pas été faite justement pour bloquer les autres projets ?
C'est la théorie du complot.
Monsieur Nomblot ?
Non, mais je ne sais pas si ça a été fait pour, mais en tout cas, ça réussit très bien dans ce domaine. C'est-à-dire que tout l'argent que l'Europe met dans la station internationale pourrait, à mon avis, être utilisé de façon probablement plus rentable, plus intéressante et certainement de façon beaucoup plus originale que pour fabriquer des bidons dans lesquels vont vivre des astronautes qui vont nous dire combien la Terre est belle vue d'en haut.
Tout à fait. Une question quand même par rapport à cette station internationale. Va-t-elle servir de centre d'essai ?
Certainement, mais d'essai à quoi ? Il y a des tas d'hypothèses qui avaient été élaborées. On avait dit qu'on pourrait essayer dans l'espace des modules gonflables qui serviraient à aller vers Mars, etc. Si je ne me trompe, ceci a été annulé. Enfin, avant même que le projet ne soit officiel. Donc oui, on va certainement faire des tas d'essais, mais qu'est-ce qu'on va essayer? J'en sais rien. Enfin, essayer de voir si on peut vivre pendant longtemps, si on peut étudier la Terre d'un peu plus haut. Mais je pense que 95% des choses qui vont être faites dans la station internationale le seraient certainement aussi bien et peut-être mieux avec des satellites automatiques qui coûteraient infiniment moins cher à construire. Mmh.
Très bien, je vous remercie donc d'avoir écouté cette émission de Voyage à travers les étoiles.